La vraie vie est ailleurs, le premier long métrage de Frédéric Chauffat. Il en co-signe également le scénario avec Julie Gilbert et la participation des comédiens, on va le voir. La vraie vie est ailleurs raconte trois voyages en train, trois voyageurs qui font une rencontre pendant une nuit. Ces voyageurs sont sur des lignes qui ne se croisent pas, seule la nuit les rassemble d'une certaine façon. Cette nuit où tout pourrait basculer.
Dormez ?
Non.
Attendez, ne bougez pas, je vais ouvrir.
Frédéric Chauffat, bonjour.
Bonjour.
Alors, La vraie vie est ailleurs, votre premier long-métrage fiction est précédé, juste, hein.
Absolument.
Jusque-là, tout va bien. Ouais. D'un moyen-métrage, on va dire, qui est sorti en 2003, Genève-Marseille. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ce premier film, ce moyen-métrage, était un one-shot et puis vous êtes dit, tiens, on va pas faire une suite, mais deux autres histoires qu'on va rajouter, ou est-ce que c'était déjà prévu, en 2003, de faire peut-être quelque chose d'un peu plus long?
Ah, on va laisser le mythe, donc on ne dira rien là-dessus. Non, ce que je peux dire, c'est que c'est parti de la même intention. C'est parti en 2003 de l'envie de partir avec une équipe très légère, de comédiens, et de remettre le comédien au centre du cinéma ou de ce cinéma-là, envie d'être vraiment autour de l'improvisation, autour du travail, du jeu. Et par rapport à d'autres projets qui prennent des fois plus de temps, parce qu'il faut réunir plus de moyens, plus d'équipes, plus de techniques. Donc l'envie était de se dire, on prend un TGV pour Marseille avec ces deux comédiens, une caméra woman, Séverine Bard, un ingénieur du son, Patrick Deram, et on regarde ce qui se passe, enfin, il y a une structure, etc., mais de travailler vraiment avec les comédiens avant tout. Et puis c'était une expérience très concluante, donc c'est vrai que le montage, c'était un peu parti, on se disait, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Le montage a fonctionné, le film a marché, ça fait un film de 40 minutes, et deux ans plus tard, en se disant, bon ben l'expérience était intéressante, mais il faudra aller plus loin. Il y a d'autres projets toujours qui continuent à s'enchaîner, à s'échelonner, et envie de continuer cette expérimentation avec les comédiens, en allant avec des comédiens que je connais moins, avec lesquels j'ai pas forcément déjà travaillé. Et on s'est mis à écrire, avec la co-scénariste Julie Gilbert, deux autres scénarios, un pour Naples, un pour Berlin, en réfléchissant par rapport au premier, comment est-ce qu'il pourrait se conjuguer, à quel moment la courbe dramatique doit être la même pour qu'il y ait une répondance, pour qu'il y ait un contraste entre les histoires. Le premier était la genèse du projet. Il n'existe plus maintenant en tant que tel. Il a été complètement avalé dans le long métrage qui s'appelle La vraie vie est ailleurs.
Coupé en morceaux, et puis voilà. Alors, on va en parler. Alors maintenant, La vraie vie est ailleurs, c'est trois voyages. Au départ de Genève, trois destinations, Naples, Berlin, Marseille, trois voyageurs, trois rencontres. Le tout pendant une seule nuit.
Absolument.
Hein, au cinéma, c'est comme ça. C'est pas vraiment une seule nuit, mais on fait croire que ça se passe dans une seule même nuit où tout peut arriver, où tout peut basculer. Une démarche donc très originale, vous l'avez dit, une histoire qui a été tournée en une seule semaine par voyage, c'est ça ?
Plus ou moins, oui.
Plus ou moins une seule semaine et en temps réel par rapport à l'histoire qui est racontée. Donc tournage de nuit, essentiellement.
Principalement, il y a des écarts là-dessus. Le temps réel, c'est surtout qu'on a respecté la temporalité de l'histoire, vu que chaque scène donner la motivation de celle qui allait suivre. Donc c'est vrai qu'il y a pas de, on n'a pas commencé par la dernière et etc. Après il y a des petits mystères du tournage qui font qu'on peut des fois être dans un wagon de nuit, donner l'impression que c'est la nuit alors qu'on est le jour, etc.
C'est de la triche, hein, régulièrement, c'est ça.
Non, c'est pas de la triche, c'est du cinéma justement, comme vous disiez tout à l'heure.
Alors voilà, intervenant, là je parle de Frédéric Chauffat, j'ai pas donné la parole encore aux deux autres invités qui nous ont rejoints ce matin, à savoir Roberto Mollo qui vient de partir prendre la parole, c'est un des comédiens, et Antonella Vitali. Mal prononcé.
C'est parfait.
Une des autres comédiennes, il y en a six hein, en tout. Enfin, les protagonistes importants. Avant de venir à vous, petite question sur des choses très concrètes comme ça. Autorisation, tourner dans une gare, tourner dans un train. Comment est-ce que ça a fonctionné ça?
Assez bien, mais ça c'était le travail de la production, donc ta production qui se sont occupés de planifier tout ça. Ça a été très simple par rapport, on a dû gérer donc avec les trains italiens, avec les trains français, avec les trains allemands et les trains suisses. Étonnamment, ou peut-être pas étonnamment, c'est avec les trains suisses que ça a été le plus compliqué. Il y a quand même une anecdote très drôle là au milieu, c'est qu'un jour avant le tournage, on avait déjà les autorisations, alors il faut payer, c'est assez compliqué pour la partie de Berlin, et le jour avant, le responsable des trains suisses nous dit « on annule tôt ».
Non.
On annule tout, les autorisations, j'ai appelé l'Allemagne, ils annulent aussi, parce que une semaine dans un compartiment, on sait que c'est un film porno. Et donc, ça a été le grand branle-bas combat pour essayer de leur dire non, il y a d'autres histoires qui peuvent se passer. Non, je suis sur tous les collègues gris de moi depuis que j'ai organisé cette histoire. Donc voilà, ça a été la grande lutte pour essayer de leur prouver. Ils ont voulu des lettres comme quoi
il n'y aurait pas de
scène équivoque dans un wagon pour pas nuire à la bonne réputation.
Ils ont vu le film depuis, ils ont compris que c'est bon.
Je sais pas s'ils l'ont vu, mais ils ont compris, je pense, par la suite.
Et
Bon, cela dit, vous avez réservé à un moment donné un wagon, je pense par exemple au voyage à Naples, où ça se passe, vous étiez tout seul dedans, ou est-ce qu'il y avait quand même des voyageurs qui pouvaient passer par là?
Alors ça se passe en deux étapes. D'abord, on a réservé un wagon, par le fait que d'être pendant une semaine continuellement dans un train de nuit, c'est impossible, et pour le travail, et pour l'ingénieur du son qui va se retrouver entre un tunnel, une voie rapide, un pont, et... Donc du coup, on a travaillé dans un hangar avec le wagon immobilisé, et ensuite on a pris le train pour Rome et ensuite Naples pour pouvoir refaire les scènes qui avaient été en fait répétées, travaillées, pour y aller dans certaines scènes d'un seul jet avec tout ce qui avait été préparé avant, et puis avoir toute cette impression de voyageurs qui passent, de paysages qui défilent.
Oui. Et quand on regarde le film, on est vraiment en voyage avec vous.
C'est le cinéma.
On se laisse aller, il faut se laisser mentir par le cinéma.
Oui, on avait
des mensonges autorisés. Roberto Mollo.
Il y avait beaucoup de gens qui bougeaient le train pendant qu'on tournait.
Pour faire croire qu'il est en mouvement. Bon, vous êtes parti en tournage avec Chauffa, avec un canevas du film, une trame, un récit très précis, je crois bien. Donc, c'est un premier scénario que vous avez signé avec Julie Gilbert. Mais je crois bien qu'il n'y avait pas de dialogue écrit, il y avait alors toute une série de détails à porter, et c'est là que sont intervenus les comédiens.
Oui, absolument. Le but était vraiment d'être le plus précis dans l'improvisation, donc on n'est jamais parti sur des 15 minutes de lâcher prise où tout le monde essayait les choses dans tous les sens, mais sur des points à très court terme à atteindre. Le comédien, à tel moment, doit se trouver dans telle situation par rapport à la comédienne. Et puis là, c'était vraiment pour moi de travailler avec le passé, avec ce que les comédiens peuvent apporter dans leur personnalité. Deux personnages qui avaient été très définis au départ pour qu'une fois que ce personnage existe, qu'ils puissent improviser, qu'ils puissent entrer dans la matière avec leurs mots, avec leurs paroles, et qu'il y ait une spontanéité qui est différente.
Alors dans la recherche des comédiens et comédiennes, il a fallu trouver des personnes qui étaient prêtes à avoir ce côté sans filet un petit peu. Hein. Se laisser aller à l'improvisation, c'est pas forcément quelque chose d'aisé.
Non, mais j'ai eu la chance d'avoir vraiment des très très bons comédiens, donc je salue et remercie pour cette aventure.
Il y a deux qui sont là, alors on va leur poser la question maintenant. Alors Antonella Vitali, cette partie, un cadre j'imagine très précis, et puis au moment des dialogues, faut se laisser aller, faut vraiment investir le personnage complètement. C'était aisé, facile, et il a fallu refaire souvent des scènes.
C'était pas toujours tout à fait aisé, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de dialogue, on travaille avec notre propre matériau, et avec nos propres humeurs, et puis l'état du moment. Mais faut dire que Frédéric nous a beaucoup aidés en nous racontant beaucoup, beaucoup d'histoires, en nous donnant beaucoup de précisions par rapport à nos personnages, chose qui, habituellement, on le saisit au travers de dialogues écrits dans un scénario classique, où on se raconte nous-mêmes des histoires par rapport à ce qui est dit. Là, comme il n'y avait pas de scénario, c'est vrai qu'on a dû alimenter autrement ces personnages, et Frédéric et Julie l'ont très bien fait au travers de leur canevas et tout ce background qu'ils ont eux-mêmes constitué et qu'ils nous ont injecté petit à petit au moment du tournage. Donc avant chaque prise, ils nous parlaient énormément, on était vraiment très très proches, et ça aide beaucoup à ensuite se sentir à l'aise et peut-être plus proche du personnage sur un mode plus réaliste.
Effectivement, parce que Roberto Mollo, justement, quand on a un dialogue, on doit investir un personnage avec un dialogue qui n'est pas le nôtre, c'est peut-être des fois tout aussi difficile d'être crédible que d'avoir ses propres paroles.
Moi je dis qu'il faut toujours, n'importe quel personnage on incarne, il faut garder une part de soi-même, on est obligé, parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est à partir de nous qu'on arrivera à modifier et donner des traits de caractère différents. Bon, moi, il y avait une chose, c'est que ce personnage est italien, comme moi, donc, à la base.
Il y avait une ressemblance, déjà.
Il y avait une certaine ressemblance.
D'accord. On va un petit peu regarder les trois voyages plus précisément. Et justement, attaquons le voyage Genève-Naples pour commencer. Alors, Antonella Vitali, vous jouez une jeune femme qui quitte Genève, qui quitte la Suisse où elle est née et dont elle connaît les failles, on va dire ça peut-être comme ça, pour aller vivre à Naples, en Italie, son pays d'origine, qu'elle idéalise.
Je sais pas si elle idéalise. Je pense qu'elle idéalise plutôt l'acte de partir de Suisse. Enfin, elle part vraiment sur... elle a une réaction forte par rapport au pays dans lequel elle a grandi, donc la Suisse. mais je sais pas si elle a vraiment une idée précise de ce qu'elle va trouver. Je pense qu'elle est pas hyper lucide sur les conditions de vie en Italie, parce que, comme le dit très bien le couchettiste qu'elle rencontre dans ce train cette nuit-là, il dit, bah, vous connaissez l'Italie qu'à travers vos vacances, tout ce qu'il y a de beau et de rayonnant dans l'Italie, qu'on y va que ponctuellement, mais pas la vie au quotidien. Donc ça, je pense pas qu'elle soit complètement naïve par rapport à ça. Toute sa démarche, elle est vraiment basée sur une impulsion qui est une réaction très forte vis-à-vis du pays dans lequel elle a grandi et qui finalement lui donne pas autant de droits civiques que ce qu'elle mériterait, parce que voilà, elle y a grandi, elle y a travaillé, ses parents ont bâti la Suisse, on peut dire ça comme ça, et on lui donne même pas un droit de vote. Donc c'est plutôt sur cette impulsion là qu'elle décide de partir, et là justement le choc, c'est justement d'avoir le discours inverse, t'as coup un mec totalement effaré qui comprend pas qu'on puisse quitter un paradis fiscal ou je sais pas, un paradis quelconque pour se retrouver en Italie, le pays de la mafia.
Exactement. C'est le pays comme pas mal d'Italiens que je connais quand j'habitais au Tessin. Ils le vivaient. Ils venaient vraiment travailler en Suisse pour avoir plus d'argent et puis pour construire la maison en Italie ensuite. Donc c'est ce genre de personnage de couchettiste. C'est une personne qui finalement il n'a pas fait le pas. Il rêve de ça, mais il a accepté.
Quelque part, il est un peu frustré.
Il a accepté.
À chacun ses frustrations, en fait, dans cette histoire.
Il a accepté sa condition, voilà, d'Italien, modeste, et voilà, sans se poser trop de questions.
Il reste avec ses fantasmes, lui aussi.
Oui, un petit peu, hein, quand même.
Un couchettiste extraordinaire qui ressemble à un vrai couchettiste.
Merci.
Oh, la jeune fille aussi, hein, je dis, attendez, il y a
une vraie jeune fille.
Pas d'ambiguïté. Qui va donc être déstabilisée. Parce qu'alors elle part avec toute l'énergie, tout l'enthousiasme qu'il faut pour quitter. Je veux dire, c'est vrai, c'est difficile. Elle part pour toujours en Italie. Au départ, c'est ça. Et pendant juste quelques heures comme ça dans ce train, elle va être déstabilisée par un discours, comment dire, un peu protecteur au bout du compte, hein, parce qu'il veut la protéger, ce couchettiste.
On ne sait pas s'il le fait consciemment ou pas. C'est sa manière d'être. Je crois qu'il est franc. Il voit cette ingénuité, cette fille qui part. Il a l'impression qu'il a un rêve de l'Italie qui ne correspond à l'Italie qu'il connaît lui. Donc, il met en face un peu la réalité italienne comme il la connaît lui.
Et puis en même temps, elle est en train de faire un pas que lui n'a jamais fait.
Ça, tout à fait.
Ou que lui même préfère s'il avait le courage ou s'il avait la possibilité de pouvoir aller travailler
en
Suisse.
C'est pour ça que je dis que probablement, c'est un personnage qui n'est pas très conscient. Quand je dis, c'est de l'impulsivité aussi. Mm-hmm. Donc il sort, c'est une des personnes qui sortent les choses comme ça. Mais en même temps, ils ne réfléchissent pas trop sur ceux qui sont eux. En effet. Je pense pas que ce genre de personnage qui a réfléchi sur le fait est-ce que je vais partir en Suisse ou pas. Si l'occasion se présente, tout à coup, un autre client d'une couchette lui dit, ah, mais moi, je travaille en Suisse pour vous. Oui. Et il y va. Probablement.
En attendant, il va en Suisse tous les jours en train.
C'est ça.
Et il repart.
Qu'est-ce que je fais, mon ami? Je prends mon bagage, je descends au prochain arrêt. Je retourne. Retourner voir mes amis, la vérité, finalement, j'ai changé d'avis.
Non, il faut surtout pas faire ça, il faut aller, ça se verra très bien à Naples. Vous aurez pu choisir Florence ou Rome, mais. Mais Naples, ça va très bien. Il faut faire ce que vous voulez.
Il y a un petit personnage là que j'aimerais juste un petit clin d'œil, c'est le chat.
Toto.
Cette jeune fille part à Naples avec son chat et il est dans le wagon. Extraordinaire ce chat. Hein.
Il joue très bien son rôle. On dirait un vrai chat.
Bon, deuxième voyage, plus brièvement. Cette fois, c'est un jeune homme, Dorian Russell pour le rôle, qui saute dans un train à Genève pour Berlin. Il part à la rencontre de son fils qui vient de naître, avec un peu d'avance. Alors, il est ébloui par sa paternité. Il est déjà un peu comme ça. Perturbé aussi probablement, ça c'est clair, c'est une histoire de papa habituel, je dirais. À Dortmund, il découvre que la prochaine correspondance n'est qu'à 6h du mat. Une nuit à attendre donc, qui n'était pas prévue. Une nuit à attendre avec ses questionnements et une nuit à attendre ainsi avec une jeune femme qu'il va rencontrer là. Alors Frédéric Chauffa, c'est vous qui en parlez de ce voyage-là. Ce voyage qui reste statique, alors là, qui se passe dans une gare.
Il commence au départ de Genève aussi comme tous les autres, mais c'est vrai qu'il va très vite se retrouver sur une voie de garage vu qu'il a cette nuit à attendre. Et c'est vrai que c'était, je pense, chaque histoire illustre une variante de la relation masculin-féminin. Les deux comédies excellentes en a parlé. Celle de Berlin, c'était vraiment, voilà, sur le questionnement de la paternité, sur l'insoutenable légèreté ou lourdeur de l'être. Et c'est vrai qu'il est là, complètement écartelé entre cette belle tchèque, interprétée par Jasna Kvitová, et sa femme qui vient d'accoucher à Berlin, qu'il doit rejoindre, il s'est planté, il a un peu merdé les correspondances. Et puis voilà, ben qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on part sur les bords de la mer Noire avec cette jeune femme
qui représente une liberté absolue là, justement.
Absolument. Et puis de l'autre côté, ben il a la beauté de la paternité, mais on sait aussi tout ce que ça représente, dans tout ce que ça représente de beau, et aussi ben voilà, la vie elle va changer, sa vie elle va changer, ses voyages entre la Suisse où il habite et Berlin où sa femme habite vont changer. Et c'était plus cet aspect-là qui a été traité dans cette histoire.
Hast du haben Sie auch den Zug verpasst? You have also missed the train?
Do you have a euro? Do you have?
Huh? Non, merci.
Vous parlez français? Vous venez d'où?
De Paris.
Mais vous auriez pu le dire plus tôt.
Oui, j'aurais pu.
Vous allez où? Vous allez à Berlin aussi?
Non, Bucarest.
Et alors, troisième voyage, celui qui mène une chercheuse scientifique, une tête en la matière, on va dire ça comme ça, qui part de Genève à Marseille où elle est attendue pour une conférence très importante qu'elle doit tenir le lendemain matin. Et sa vie, c'est sa profession, très réglée, tout va bien. Et elle rencontre un homme qui prétend, c'est ce qu'il annonce au contrôleur, qu'on lui a volé ses papiers, ses billets, son argent, tout ça. Bon. On ne sait pas, on saura jamais rien vraiment de ce personnage qui se trompe de train en plus, soi-disant. Enfin bon, mais lui, alors il va venir, c'est le grain de sable qui va
perturber la bonne machine.
Absolument, donc, hein, parce qu'ils arrivent à Marseille et il va continuer à la suivre malgré elle, malgré lui, mais en même temps, ça fait partie de ces hasards qui font du bien à la vie.
Oui, et puis c'était là, alors vraiment le troisième versant de cette histoire. Donc Sandra Modio, cette femme, et l'homme, c'est Vincent Bonillo. Cette femme jusque-là a été complètement one self woman, enfin carriériste, se battant dans un monde d'hommes où il faut être plus homme que les hommes pour pouvoir vaincre et pour pouvoir réussir. Et tout d'un coup, à l'aube de la quarantaine, se retrouve quand même un petit peu seule, se retrouve dans son petit hôtel où elle doit attendre son colloque du lendemain. Et puis il y a cet homme qui finalement, pour différentes aventures qui va se passer, se retrouver là au milieu. Et sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait voulu ou ne l'ait désiré, va tout d'un coup la faire remettre en question, comme chacun des autres personnages dans les autres chapitres, sur le fait que est-ce que la vie c'est que le travail, est-ce que c'est que la recherche, ou tout d'un coup c'est aussi être ouvert un peu plus à l'inconnu, ou tout d'un coup se laisser aller.
Messieurs, dames, bonjour, pour des billets s'il vous plaît.
Bonjour, je n'ai pas de billet.
Vous n'avez pas de billet?
Non.
Bien, et comment ça se fait que vous n'avez pas de billet?
Eh bien, j'ai tout perdu hier soir, j'ai plus de carte bancaire, plus de papier d'identité, voilà.
Vous allez où, monsieur?
Je vais à Toulouse.
À Toulouse. Donc là, on va pas à Toulouse, hein, ça sera Marseille.
Ah bon. J'irai jusqu'à Marseille, alors.
Ouais. Vous avez un moyen de paiement, rien du tout?
Cartes,
pas de pièce d'identité, rien du tout.
Je vous ai déjà dit, j'ai pas de papier d'identité, j'ai tout perdu hier soir.
Je vais faire un avis, je vais relever votre identité verbalement. On fera intervenir la police à Marseille.
Tout vous, voyez bien, vous voyez bien que je suis pas un hors-la-loi.
Excusez-moi monsieur, c'est combien un billet pour Marseille?
Alors il y a plein de trois petits points qui circulent à travers ce film au fond. Et puis les trois personnages vont continuer le chemin qu'ils avaient prévu.
Rien ne les arrête.
Rien ne les arrête, mais en même temps, différemment, avec un autre point de vue, un autre esprit peut-être. Mais ça, c'est la vie tout le temps, non?
Oui, c'est vrai que c'était vraiment pas l'idée, c'est pas une épopée. C'est pas quelque chose où il y a une histoire et tout va changer et ils vont faire la révolution à la fin. C'était de se dire, ben, moi je pars toujours de ce principe du... Je se lève le matin, un peu la gueule de bois, un peu, on marche dans la rue et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous regarde et il y a un regard et puis il y a ce moment qui dure 5 secondes et paf, on sort du champ de vision parce que la personne nous a croisés. Et tout d'un coup, notre journée est un petit peu différente. Tout d'un coup, pendant une heure ou deux, il y aura eu un sourire ou un regard très franc de la personne d'en face, homme ou femme, qui va faire que tout d'un coup, eh ben, cette tonalité, elle va changer. Et c'est un petit peu de ça que parle ce film, c'est de ces croisements, ces rencontres dans les moments impromptus où on s'attend à rien. Et tout d'un coup, eh ben, on va prendre la vie d'un côté différent.
C'est beau ce que tu dis. Tu nous as jamais dit ça.
Ah, mais c'est, garder des arguments pour après le tournage aussi.
Voilà. Frédéric Chauffa, Antonella Vitali, Roberto Molo, pour La vraie vie est ailleurs. Je vous souhaite le meilleur des bons vents.
Merci.
La vraie vie est ailleurs, donc, de Frédéric Chauffa. Je vous signale que le réalisateur est accueilli plus longuement, en compagnie de Julie Gilbert, au micro d'Alain Maillard, dans Recto Verso, ce jeudi 18, entre 17 et 18 heures. Le film La vraie vie est ailleurs sort mercredi. Notez que l'équipe du film sera présente pour la toute première mercredi 17, donc à 20h au Scala à Genève. Et également le jeudi 18 à 19h30 aux Galeries à Lausanne. Et le vendredi 19 à 20h30 à l'Apollo de Neuchâtel. En outre, j'ai des invitations, des billets à vous offrir pour voir ce film à la date et dans le lieu de votre choix. Les premiers arrivés, bien sûr, seront les premiers servis. Laissez donc un message sur notre répondeur 021 318 18 99.